vous invite à ouvrir vos Bibles. On va poursuivre notre lecture dans l'Évangile selon Luc pour justement mieux connaître notre Seigneur et le laisser agir dans nos vies. Donc la dernière fois, on avait vu la présentation de Jésus-Christ, présentation publique avec son baptême et la tentation, et entre Luc qui nous avait glissé sa généalogie pour nous montrer Jésus-Christ est le Fils de Dieu par excellence, le nouvel Adam qui vient vaincre Satan pour nous libérer de l'emprise de Satan. Et c'est avec cela en tête, avec cela affirmé, que Luc commence maintenant le récit du ministère public de Jésus, donc à partir de ce verset 14 du chapitre 4. Donc voilà ce que nous pouvons lire. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Certainement, vous me citerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici, dans ta patrie. » Et il leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie. » Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. J'ai appris un mot dernièrement en français. C'est ce mot-là. Alors pour vous qui n'êtes pas francophone d'origine, je vous rassure, même pour nous les francophones, il est chaud à prononcer. Et en fait, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais alors, j'ai cherché. Alors, a priori, ça se prononce aésoptrophobie. Je me tourne vers le médecin, on va voir si ça va. Mais voilà, en général, chacun d'entre nous, on est content d'avoir un miroir, n'est-ce pas? Le matin, je suis sûr que c'est votre cas ce matin, vous vous êtes regardé dans le miroir pour voir si vous étiez à peu près bien coiffé, s'il n'y avait pas grand-chose entre les dents, si ce que vous avez mis va à peu près bien ensemble, etc., n'est-ce pas? On est content d'avoir des miroirs pour se voir tel que nous sommes et, s'il le faut, apporter des changements. Mais il y a des personnes qui souffrent d'aésoptrophobie, qui sont aésoptrophobes. Elles ont peur des miroirs. Et en fait, plus que d'avoir peur des miroirs, en fait, elles ont peur de voir certaines choses dans le miroir. Et à cause de cela, elle fuit les miroirs, elle fuit les vitres des voitures, elle fuit les vitrines dans la rue, parce qu'elles ont peur de voir certaines choses qu'il n'y a pas, en fait. Elles ont peur de voir, par exemple, un fantôme ou une apparition. Et à cause de cela, elles fuient tout ce qui pourrait leur refléter quelque chose. En fait, elles fuient ce qui pourrait leur renvoyer leur peur, leur crainte, leur superstition, parce qu'elles en deviennent paralysées. Et effectivement, sans miroir, alors, difficile d'apporter les changements nécessaires. Dans notre texte, Jésus-Christ est en train de nous dire quelque part que nous sommes tous aésoptrophobes, que nous sommes tous malades, qu'il y a des choses qu'on n'aime pas voir dans notre miroir. Et en fait, la chose qu'on a le plus de mal à voir dans le miroir, c'est nous. C'est nous, nous dit ce texte. Je propose de reprendre, je vais faire 5 remarques pour mettre cela en avant. Première remarque, Luc fait le lien ici avec le récit juste avant. Vous remarquez, verset 14, c'est comme ça que Luc introduit. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, qui a clairement fait le lien avec ce qu'il avait dit avant avec le baptême, où le Saint-Esprit descendit sur lui, verset 22. Et chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, donc pour être tenté. Et donc c'est avec cette puissance du Saint-Esprit, en lien avec son baptême, en lien avec la victoire dans le désert sur la tentation, que Luc nous introduit maintenant le récit public de Jésus-Christ. C'est le nouvel Adam victorieux sur Satan, venu pour libérer l'humanité en faillite qui commence son ministère, ici à Nazareth. Deuxième remarque, Luc fait un choix ici pédagogique. Assez étonnamment en fait, ou c'est sa logique, il a le droit après tout. Il commence avec un petit résumé de son ministère, verset 15, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous, donc les synagogues donc dans la région de Galilée, n'est-ce pas? Mais au verset 23, il y a la population, ou Jésus qui entend la population de Nazareth et qui répond à ses dires. Il dit, médecin, guéris-toi toi-même, tout ce qui s'est produit à Capernaum. Donc, les gens savent déjà qu'il y a eu des grands miracles à Capernaum. Mais ici, Luc ne nous en a rien dit jusqu'à présent, n'est-ce pas? On n'a pas entendu de miracles, on n'a pas entendu de grandes paroles. En fait, le ministère public n'a pas encore commencé dans l'évangile de Luc. Donc Luc fait un choix ici de commencer son récit public de la vie de Jésus-Christ avec ce récit ici à Nazareth. Et en fait, ce qui s'est passé à Capernaum, il va nous le dire juste après. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Donc Luc n'organise pas son matériel de manière chronologique, mais il l'organise de manière thématique. Et donc, il introduit un thème ici, et il veut, en faisant cela, qu'on fixe notre attention non sur le déroulement, mais sur la présentation qu'il nous fait de Jésus-Christ. Ça va, ça? Et donc, il y a quelque chose que nous devons comprendre, nous devons prêter attention particulièrement à quelque chose ici dans notre texte, parce que Luc fait le choix de commencer le ministère public par ce texte-là. Donc, il y a quelque chose qu'on doit bien faire attention. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Où devons-nous prêter notre attention sur Jésus-Christ? Et c'est notre troisième remarque. Troisième remarque, Jésus ici applique à ses auditeurs le passage du prophète Ésaïe. En fait, on assiste à une scène assez classique de la synagogue ici. C'est que le culte de la synagogue c'était le lieu de rencontre des Juifs, pas seulement pour le culte, mais aussi pour leur vie communautaire. Et ils se rencontraient, et quand il y avait le temps de culte, en fait, il y avait un responsable de la synagogue qui veillait sur le déroulement, mais chacun intervenait. Et il y avait un serviteur dans la synagogue, celui qui avait la responsabilité de donner les rouleaux des écrits juifs à quelqu'un, et ça pouvait être n'importe qui, un homme, même un mineur parfois, un homme mineur, excusez-moi mesdames, c'est pas moi, qui de donner et qui donc cet homme qui était désigné pouvait faire la lecture. Et c'est ce qu'on voit effectivement, il y a le serviteur qui donne le rouleau. Et d'abord, on lisait dans le rouleau du Pentateuque, c'est-à-dire un des textes de les cinq premiers livres, un des textes de Moïse, et ensuite on lisait un des textes des prophètes. Et Luc nous dit juste ce moment-là. C'est le rouleau du prophète Ésaïe qui a porté à Jésus, et Jésus le lit, et à cette époque-là, on lisait debout, et quand on avait fini de lire, on renroulait le rouleau, on le redonnait au serviteur qui le rangeait, et la personne s'asseyait pour enseigner. D'accord ? Donc c'est exactement ce que fait Jésus. En fait, Jésus se conforme pleinement à la tradition juive, se conforme pleinement au culte juif. Il ancre son ministère dans le culte juif et dans les écrits juifs, et voilà ce qu'il nous dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jusque-là, tout est normal, n'est-ce pas? Mais là, maintenant, Jésus va faire quelque chose d'inhabituel, d'étrange. Matthieu 1. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et là, normalement, personne ne fait ça. L'enseignant qui s'est assis, justement, va expliquer le texte. Mais Jésus dit, aujourd'hui, par moi qui vous lis ceci, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Alors pour nous, lecteurs du Nouveau Testament, pour nous, lecteurs de l'Évangile de Luc, c'est évident parce que depuis le début du chapitre 1, Luc n'arrête pas de nous dire « Il sera rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra sur toi Marie et il sera rempli du Saint-Esprit pour délivrer son peuple », n'est-ce pas ? Et on n'arrête pas de le lire ça avec le baptême, avec la tentation et avec cette introduction du verset 14. Mais ce n'est pas autant évident, mais a priori, les lecteurs, les auditeurs de Jésus comprennent que Jésus est en train de dire « Moi, grâce à moi, aujourd'hui, en moi, c'est accompli. » D'où leur réaction. Mais si Jésus ose dire cela, si Jésus ose dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie », alors à qui s'adressent les paroles du prophète ? Alors, clairement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça parle de Jésus, n'est-ce pas? Mais le reste du texte, ça parle à qui? À ses auditeurs. N'est-ce pas? Et il est en train de dire, il m'a envoyé aux captifs, à vous, aux aveugles, à vous, aux malades, à vous. N'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire. Mais à moins que les personnes de Nazareth soient tous aveugles, tous malades et tous captifs, Jésus est en train de parler de leur état spirituel. Il est en train de leur dire spirituellement, les gars, vous êtes aveugles, captifs, malades. Et effectivement, Luc va nous conduire dans cette compréhension. Regardez un peu plus loin certains textes de l'Évangile où Jésus dit ceci. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ?» Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ? D'après ce texte, c'est qui est aveugle ? Est-ce que c'est quelqu'un qui souffre de cécité ? Non. C'est quelqu'un qui ne voit pas son état spirituel. N'est-ce pas ? C'est celui qui refuse de se voir tel qu'il est. Ou alors cet autre texte. Jésus, après l'avoir entendu, lui dit « Il te manque encore une chose. » Quand cet jeune homme riche était venu voir Jésus pour lui dire « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?»« Vends tout ce que tu as, redistribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » C'est qui le pauvre ici, d'après Jésus ? Étonnamment, le pauvre, c'est le riche, n'est-ce pas ? Jésus est en train de dire « Mon ami, t'as pas de trésor dans le ciel, t'es pauvre. » Vends tout ce que tu as si tu veux un trésor dans le ciel. Et suis-moi. Et pour les captifs, les opprimés, en fait, il nous parlera aussi de ceux qui sont sous l'emprise de Satan et du péché. Donc ici, Luc nous montre que Jésus est en train de, le terme n'est pas très bon, mais presque d'agresser ses auditeurs. En fait, par cette parole, il est en train de leur mettre un miroir devant eux pour leur dire « Voilà ce que vous êtes, les amis. Vous êtes aveugles, pauvres, captifs. » Et ce texte, qui est formidable parce qu'il annonce la libération, l'œuvre puissante de Dieu en faveur des pauvres, ou en faveur des hommes, ce texte est en même temps très redoutable, parce qu'il donne une description de l'homme qui n'est pas très reluisante, n'est-ce pas ? Il donne une description de l'homme, il nous donne une image de nous-mêmes qui n'est pas très belle et agréable, et qu'on n'a pas envie d'entendre, et pas envie d'accepter. Mais Jésus met ceci en avant, c'est le nouvel Adam victorieux. Et il commence son ministère public avec un message qui n'est pas flatteur. Pas du tout flatteur. Les hommes sont pauvres, captifs, aveugles et opprimés. Question, est-ce que c'est comme ça que tu as tendance à te décrire ? On est d'accord que c'est non, hein, n'est-ce pas ? Et c'est la même chose pour les auditeurs dans la synagogue. Hein. C'est certainement pas comme ça qu'ils auraient tendance à se décrire. D'où leur réaction. C'est notre quatrième remarque. La réaction du peuple. Les auditeurs ici de Jésus sont face à une tension. D'un côté, ils admirent Jésus, ils se réjouissent de ce qu'il dit. En fait, ils sont épatés par lui parce qu'ils ont entendu ce qu'il a fait à Capernaum. Et on verra la semaine prochaine, effectivement, et je vous encourage à lire cette semaine. Bon, vous l'avez lu d'ailleurs dans les groupes de maison. Tous ces grands miracles, il a chassé un démoniaque, n'est-ce pas ? Quoi ? Pas un démoniaque. Le démon dans un démoniaque. Il a guéri la belle-mère de Simon, qui on appelle Pierre, l'apôtre Pierre. Et il a délivré plusieurs autres démoniaques et guéri beaucoup de maladies. Donc, les habitants de Nazareth ont entendu ça, ils se disent « Waouh, c'est Jésus, la classe !» Mais en même temps, de l'autre côté, ils sont sceptiques par rapport à ce qu'il vient de dire sur leur état. Parce que franchement, Jésus, c'est qui pour nos habitants de Nazareth ? Mais Jésus, c'est que le petit Jésus, n'est-ce pas ? C'est le petit bonhomme qui a grandi dans le village. C'est que le fils de Joseph. Et franchement, tout ce qu'il sait, ce petit gars, c'est nous qui lui avons dit, n'est-ce pas ? Nous, les aînés. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, le petit jeune du village ? Il n'a rien à nous dire. Il n'est personne d'autre que le fils de Joseph. Et donc, leur regard sur Jésus est complètement faussé. Il n'est pas faussé à cause de Jésus et de ce qu'il vient de leur dire, mais il est faussé à cause de leur orgueil. Et notre regard sur Jésus peut être vite faussé aussi, à cause de notre orgueil. Ou, comme pour les habitants de Nazareth, à cause de notre habitude. Parce que nous avons tellement l'habitude d'entendre parler de Jésus. Parce que nous avons tellement l'habitude d'entendre ses discours. Et on les relit dans les Bibles. Et en fait, même on peut les lire et dire « Ah ouais, ça je sais. Ah ouais, ça je m'en souviens. Ah ça c'est rigolo aussi, ça je m'en souviens. » Et en fait, on ne se laisse pas toucher. On n'est pas à l'écoute de qui et Jésus-Christ, de qu'est-ce que Luc, Jean, Marc et Matthieu sont en train de nous dire sur lui. Parce qu'on y sommes tellement habitués par orgueil. Et Jésus perçoit clairement cela. Et certainement, il y a des bavardages pour qu'il entende ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'il leur dit a priori quelque chose qu'ils auraient tendance à dire. Certainement, vous me citerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même ». Guéris-toi toi-même. C'est un peu notre équivalent pour le cordonnier, n'est-ce pas ? Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Chausse-toi toi-même, cordonnier. En fait, tu n'as rien à nous dire. Fais-le pour toi, n'est-ce pas ? En fait, a priori, ça veut dire qu'ils sont plus venus pour réclamer des choses à Jésus-Christ plutôt que de le laisser faire. Hé, tu as fait des miracles pour l'autre village. Tu as fait des miracles et des grandes choses pour ceux de Capernaum qui ne sont pas de ta patrie. Maintenant, alors fais-le pour nous, nous tes parents, nous ta patrie, nous qui avons pris soin de toi depuis que tu es petit. Fais cela pour nous. Autrement dit, ils sont venus voir Jésus pour le show, pour entendre des grandes choses, mais ils ne sont pas venus voir Jésus pour se laisser reprendre. Ils ne sont pas laissés, ils sont pas venus voir Jésus pour le laisser nous instruire, les instruire, être repris, encouragés, réorientés dans notre vie parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Alors Jésus va les reprendre, il va reprendre la parole, justement, il va les reprendre en les comparant à l'Israël d'autrefois. Il va nous parler notamment des prophètes Élie et Élisée, deux grands prophètes de l'époque d'Israël. Deux grands prophètes quand le royaume a été séparé, après le schisme, après Salomon, qui sont dans le territoire du nord sous le roi Akab. Donc autrement dit, sous une période d'éloignement extrême de Dieu. Et le peuple qui vit dans ce profond rejet de Dieu, Dieu ne l'abandonne pas, leur envoie des prophètes, notamment Élie, Élisée. Et à cause de la méchanceté du peuple, à cause de la dureté, de la rébellion du peuple, Dieu va donner une famine. Une famine qui va durer longtemps, 3 ans. Ce qui veut dire que des personnes vont mourir, d'accord ? Et pour prendre soin de son prophète, pour prendre soin du prophète Élie, Dieu va dire à Élie, va là-bas, va en Sidon, dans le village de Sarepta, et là j'ai donné ordre à une femme, à une veuve, de prendre soin de toi. Sidon, Sarepta, ça veut dire quoi ? C'est pas une juive. C'est tout ce qu'on a horreur, une païenne. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et Dieu envoie Élie là-bas. Et quand Élie arrive chez cette femme, elle est en train de cueillir, de ramasser du bois, parce qu'en fait, elle souffre de la famine, et Élie va lui dire, fais-moi manger, donne-moi à manger, s'il te plaît. Grosso modo, je viens de voyager, j'ai faim, donne-moi à manger. Mais elle lui dit, mon ami, c'est pas possible. Je suis en train de ramasser du bois pour faire mon dernier repas. Je suis seule, je suis une veuve, et il me reste un enfant, un fils. Il nous reste tellement peu à manger, tellement rien à manger, on fait le dernier repas, on mange et on attend la mort. Et il lui dit, d'accord, mais d'abord, fais-moi manger. D'abord, donne-moi à moi. Et après, Dieu va prendre soin de toi. Et cette femme est face à un grand dilemme, n'est-ce pas ? Soit elle pourrait se dire, mais il se fiche de moi, lui, ou quoi ? Il n'a pas compris, il ne comprend pas le français ? Ou elle leur dit, mais après tout, je suis tellement désespéré, je suis tellement pauvre et sans aucune solution. Soit je mange un morceau de pain et je meurs, soit je ne mange pas de morceau de pain, et peut-être, mais bon franchement, mais peut-être, il va se passer quelque chose, mais au pire je meurs. Dans les deux cas, je meurs. Et cette femme, devant la gravité de sa pauvreté, reconnaissant qu'elle n'a aucune solution pour elle et pour son fils, fait le choix de la confiance, de la foi en Élie et en son Dieu. Et cela lui a sauvé la vie. Il y aura une veuve et un orphelin qui auront du pain à satiété pendant la famine. Parce qu'ils ont eu confiance dans le prophète que Dieu a envoyé. Et c'est la même chose du temps d'Élisée. Élisée, qui est le disciple d'Élie, qui est devenu le grand prophète aussi en Israël. Et durant cette période-là, il y a encore un étranger, un païen, et pire que ça, un ennemi. Et pire que ça, le chef des ennemis, le général de l'armée syrienne, c'est un lépreux. Et en tant que juif, on vous dit, mais tant mieux qu'il crève, franchement, il vient nous envahir. Donc tant mieux, il a ce qu'il mérite, n'est-ce pas ? Mais il vient parce qu'il y a une petite fille dont ce général certainement a tué les parents, l'a pris comme esclave, et cette petite fille a fait un choix. Au lieu d'avoir de l'amertume, de la rancune et de la colère, va prendre pitié de cet homme et dire « Moi, j'ai une solution pour toi. » Et cette petite fille, on ne la connaît pas. On ne sait même pas son nom. Mais elle dit « Va là-bas. » Et Naaman, ce général syrien, va alors aller auprès du roi, demander de l'aide, et il va, c'est Élisée qui va envoyer un de ses serviteurs pour lui dire « Va te tremper 7 fois dans le Jourdain. » Et Naaman va être en colère. Quoi ? Se tremper dans cette eau pourrie ? Franchement, j'ai des meilleurs lacs ou des meilleures rivières chez moi, n'est-ce pas ? Alors il dit, allez hop, on s'est fichu de moi, on s'en va. Et alors qu'il est en colère, qu'il rentre chez lui, il y a un de ses serviteurs qui lui dit, hey, Bon, pas comme ça. Hein. Mais pourquoi pas essayer cette solution toute bête, toute simple ? Et là, Naaman a dû prendre le temps de réfléchir. Il dit, mais franchement, quelle autre solution j'ai ? Ma situation est tellement désespérée que soit je reste comme ça, en n'acceptant pas cette possibilité, soit je vais tester et essayer, faire confiance dans cette solution illogique, bête et simpliste. Et face à la gravité de sa maladie, alors qu'il n'a aucune autre solution, Naaman fait le choix de la confiance. Fait le choix d'avoir foi dans le prophète et dans son Dieu. Et il a été guéri. Une païenne nourrie. Un païen guéri. Dans le temps où deux grands prophètes sont envoyés au peuple d'Israël. Mais où le peuple d'Israël, eux, ne veulent pas écouter. Dans le temps où Israël, le peuple de Dieu, ne veut pas écouter son Dieu, ne veut pas avoir foi dans son Dieu. Deux étrangers ont eu foi et ont été sauvés. Et du temps de ces grands prophètes, le peuple n'a rien voulu savoir. Qui a eu confiance ? Qui a été guéri ? Qui a été sauvé en Israël ? Qui a été transformé par Dieu ? Personne, si ce n'est deux païens. Et eux, les habitants de Nazareth, du temps de Jésus-Christ, ils ont entendu parler des miracles de Jésus-Christ. Mais ils ne veulent pas se tourner vers eux. Comme leurs ancêtres, ils restent durs vis-à-vis de l'action de Dieu dans leur pays et ils refusent de se voir tels qu'ils sont. Ils refusent d'accepter la parole de Dieu sur eux, dire « Regardez ce que vous êtes à l'intérieur !» Ils refusent de voir leur situation désespérée et de laisser Dieu la transformer. Jésus-Christ, le nouvel Adam victorieux, vient nous libérer. Mais il fait cela en nous confrontant à notre état qui n'est pas très glorieux, qui est désespéré. Et pour changer cet état, il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande d'accepter son verdict sur notre vie. Il nous demande d'accepter, Philippe, regarde ce que tu es. C'est pas beau, hein ? Mais si tu veux que je fasse du quelque chose pour toi, il faut que tu acceptes cela. Parce que si tu refuses d'accepter cette image de toi, je ne vais rien pouvoir faire. Aie confiance en moi. Qu'allons-nous lui répondre ? Cinquième remarque, c'est justement la réponse du peuple. Et la réaction du peuple, des habitants de Nazareth, de la patrie de Jésus-Christ, ceux qui l'ont vu grandir, sa famille, leur réaction est extrêmement violente, voulant mettre Jésus-Christ à mort. Et cette réaction ne se fait pas attendre, elle est immédiate, certainement grondant durant le discours de Jésus-Christ. Et Luc mentionne à quel point cela est pluriel, c'est tous qui sont remplis de fureur. C'est tous qu'ils entendirent, levèrent, le poussèrent, le menèrent. Pendant le discours, ils se sont tous mis d'accord, il est coupable. Il est coupable. Et pas d'un petit truc. On va le lancer du haut d'une falaise pour se débarrasser de lui, pour le mettre à mort. Pour eux, Jésus-Christ a été choquant, n'est-ce pas ? Comment peut-il nous comparer à des païens et même pire, nous dire que des païens sont meilleurs que nous ? Nous qui sommes des bons juifs, après tout, on est à la synagogue, n'est-ce pas ? On est là samedi après samedi pour écouter l'enseignement. On est les enfants d'Abraham. Comment peux-tu nous dire que des païens sont meilleurs que nous ? Eux, ce sont des bons religieux, n'est-ce pas ? Mais Luc commence le ministère public de Jésus-Christ avec cette grande affirmation. La personne, le ministère, le message de Jésus-Christ en tant que nouvel Adam entraîne un conflit, entraîne une tension en nous, parce qu'il veut nous montrer ce que nous sommes, mais nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Et si on relit la Bible depuis le début, En faisant attention un peu à cela, malheureusement, on doit reconnaître que c'est vrai depuis le début, n'est-ce pas? Souvenez Genèse 3, alors que l'homme et la femme ont pris le fruit, ont dit à Dieu, « T'es gentil, mais on veut pas de toi, on veut faire comme nous on veut, à notre tête. » Dieu est quand même descendu, il allait les trouver, et il est allé voir Adam, et qu'est-ce qui s'est passé, Adam? C'est pas moi, c'est elle, n'est-ce pas? Et après, Ève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi, c'est le serpent, n'est-ce pas? Le serpent, il n'avait pas de bras, il ne pouvait pas faire ça. Et Dieu dira, pardon, et Adam dira quand même pire à Dieu, n'est-ce pas? C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est toi le responsable, c'est toi le fautif, c'est pas moi. C'est Dieu qui ne sait pas. Et on est tous d'accord en général pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre monde, n'est-ce pas? Le climat qui se dérègle, ça ne va pas. Les guerres qui ne s'arrêtent pas, ça ne va pas. Les tensions au travail, ça ne va pas. La politique de notre pays, ça ne va pas. Mais vous n'en faites pas, nous on sait comment faire, on sait ce qu'il faut faire, on pointe du doigt les responsables, n'est-ce pas? C'est pas moi, c'est eux. C'est eux les pollueurs, c'est eux qui s'en mettent plein les poches, c'est eux qui sont méchants, c'est eux qui sont orgueilleux, c'est eux qui. C'est pas moi, c'est eux. Jésus nous rappelle ici, c'est pas seulement les autres. C'est pas seulement les autres, c'est moi aussi. Est-ce que je suis prêt à accepter ma responsabilité? Est-ce que je suis prêt à accepter ce que Jésus-Christ me renvoie? Si on veut changer, si on voit en tant que disciple de Jésus-Christ déjà notre besoin de changer, aussi on prie « change-moi », alors acceptons ce qu'il nous dit sur nous. Même franchement, quand ce qu'il nous dit sur nous, ce n'est pas agréable à entendre. Mais Jésus ne nous donne pas des choses pas très agréables à entendre pour nous enfoncer, pour nous écraser, mais parce qu'il veut nous faire du bien. Reconnaissons notre aveuglement sur mon état, sur le mal qui existe encore en moi, sur ma pauvreté quant à mon attachement à Jésus-Christ comme seul sauveur et seul Seigneur. Baruch Hashem Adonai. Oh, c'est sympa à chanter. Hein? Baruch Hashem Adonai, ouais, cool. Hein? Adonai, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de celui qui parfois me dit non, Philippe. Béni soit le nom de celui qui dit Philippe, pas comme ça. Comme ça. C'est ça qu'on a chanté, hein? Seigneur. Qu'on puisse accepter Jésus-Christ comme Seigneur et qu'on puisse reconnaître, ouais, c'est vrai, parfois je suis tellement pauvre. J'ai tellement de mal à accepter la seigneurie de Jésus-Christ sur moi encore aujourd'hui. Je préfère pointer le doigt sur les autres, dans ma famille, dans mon église, au travail et partout ailleurs, plutôt que d'accepter ce que Dieu est en train de me dire au travers de cela. Et encore aujourd'hui, malheureusement, on préfère tellement se réunir pour que Jésus-Christ nous fasse un show de miracles ou de grandes paroles, plutôt que de l'écouter et de nous laisser transformer. Qui est notre Jésus-Christ? Et Jésus est venu donc pour mettre ce miroir devant nous. Pour la veuve de Sidon, ce miroir a été placé par la famine. Tac, famine, regarde qui tu es, ma petite dame. Pour Naaman, c'était par la maladie. Tu vois qui tu es, Naaman? Regarde. Regarde tes réactions, regarde ton attitude, regarde ton désespoir. Et Dieu continue à placer des miroirs. Parfois, c'est encore par la maladie pour nous. A priori, personne ne souffre trop de famine ici, mais peut-être par la tension au travail. Ou par un enfant qui ne vit pas sa vie comme on aimerait qu'il la vive, pour honorer ses parents, pour que tout le monde dise à l'église, « Oh là là, qu'est-ce qu'il éduque bien ses enfants !» N'est-ce pas? Ou pour que, dans la société, on soit fier de nous parce que notre fils est un grand docteur, quelqu'un qui est très connu, reconnu, qui a une grande baraque, etc. Parfois, Dieu place ses miroirs par une question d'héritage qui ne se passe pas bien. Et je suis assez impressionné par le nombre d'histoires que j'entends sur les héritages qui entraînent des tensions dans les familles, et même chez les chrétiens. Même chez les chrétiens. Le nombre de familles chrétiennes qui se détruisent, se déchirent à cause de l'héritage. Oh, on n'est pas matérialiste. Non, non, tu parles. Attends l'héritage, tu verras que tu n'es pas matérialiste. Autant d'occasions pour apprendre à nous voir tels que nous sommes, n'est-ce pas? Et par excellence, Jésus le fait par sa parole. Tu veux voir qui tu es? Lis. Écoute. De temps en temps, ça va faire mal. Mais tu sais quoi? En fait, c'est quand ça fait mal que ça fait du bien. Parce que c'est seulement quand ça fait mal que la solution est là. Mais si ça fait pas mal, c'est qu'il y a un problème. Si ça fait pas mal, c'est que tu vois pas la gloire de Dieu. Si ça fait pas mal, c'est que tu vois pas la sainteté de Dieu. Alors, attention à ce que je suis en train de dire, d'accord? Je dis pas qu'il faut prendre un fouet, se taper quand on lit la Bible, d'accord? Ok? À chaque fois que ça fait mal, il y a tout le temps le texte qui est juste à côté, qui est là ou qui est dans le contexte, pour nous dire « j'ai la solution ». Toi, tu ne l'as pas, mais moi, j'ai la solution. Et regarde, c'est là. Et si vous voulez bien considérer notre texte, il y a une ironie qui est assez impressionnante, n'est-ce pas? C'est parce que le peuple ne veut pas changer, qu'ils veulent se saisir de Jésus-Christ pour le balancer du haut d'une falaise, pour qu'il meure, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, tout le long de son récit, Luc va nous le conduire, va à Jérusalem, à Jérusalem, à Jérusalem. Pourquoi il va à Jérusalem? Pour mourir, justement. Pour mourir. Pour nous rendre la vue. Pour nous rétablir. Pour nous enrichir. Pas matériellement, mais de cette relation, de ce qu'on a dit au départ, de cette bénédiction. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Il nous a rendu la vie. Il nous a rendu la vue. Il nous a enrichis. Il nous a délivrés de Satan. Voilà les plus grandes bénédictions que nous pouvions rêver et espérer avoir. Ce peuple qui veut se débarrasser de Jésus-Christ, Jésus-Christ va se livrer pour changer leur cœur. La question, c'est, et toi et moi, est-ce qu'on veut accepter qu'il change le nôtre encore aujourd'hui? Est-ce qu'on veut accepter ce qu'il nous dit dans les miroirs qu'il nous propose afin de les laisser nous transformer? Je vous invite à prier.